Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio France Internationale. Il est 12h30 ici à Paris, une heure de moins en temps universel.
RFI Midi.
Grégoire Morelli.
Et nous sommes ensemble pour deux heures pour faire le tour de l'actualité à travers le monde. Au programme aujourd'hui, cette réunion qui a débuté ce matin à Riyad entre Russes et Américains. Une reprise des contacts donc entre Washington et Moscou en Arabie Saoudite. L'occasion de revenir avec notre invité sur le rôle diplomatique de Riyad. Ce sera avec Bertrand Besancenot, ancien ambassadeur de France en Arabie Saoudite. À midi 10, temps universel. Lors de ces discussions, il devrait être question de l'Ukraine. Mais sans l'Ukraine, ce qui n'est pas du goût de Kiev, Volodymyr Zelensky fera lui le déplacement dans la capitale saoudienne demain. Mais sur le front, l'impatience des soldats fait place à l'agacement.
Je me sens offensé parce qu'on en est réduit à attendre passivement. Pendant qu'on se bat, d'autres décident de notre sort dans notre dos. Bien sûr que cela ne nous plaît pas. On ne veut pas de ça.
Et cette réunion suscite des inquiétudes du côté des capitales européennes qui craignent que ce début de rapprochement entre Washington et Moscou ne se fasse à leur insu, alors que la réunion d'hier à Paris entre une dizaine d'États de l'UE n'a pas permis de fournir de réponse à leur exclusion des négociations. On en parle avec Nicolas Rocca dans une minute. Et puis, ce mardi 18 février marque aussi le retrait des troupes israéliennes du sud Liban. Mais Israël est resté présent dans 5 positions de son côté. Beyrouth affirme que toute présence israélienne sur son territoire est une occupation. À suivre également les opérations anti-immigration qui se poursuivent aux États-Unis. Ces 3 dernières semaines, les franchissements illégaux ont chuté de 90% sur la frontière mexicaine, selon l'ICE, l'agence de police douanière et de contrôle des frontières américaines chargée de traquer les clandestins.
J'en poursuivais 3 autres, j'en ai attrapé un. Les 2 autres ont réussi à s'enfuir. On les attrapera la prochaine fois. On va continuer à les poursuivre. On va continuer à reprendre le contrôle de notre pays. Ça fait 4 ans maintenant qu'on patrouille dans ces montagnes. C'était absolument hors de contrôle. Maintenant, l'hémorragie s'est un peu arrêtée, mais pas totalement, comme vous pouvez le voir.
Voilà, vous entendrez le reportage exceptionnel de David Thompson à 13h09, temps universel. En République démocratique du Congo cette fois, situation relativement calme dans la ville de Bukavu, occupée par le M23 et l'armée rwandaise. Les habitants de la capitale provinciale du Sud Kivu ont commencé progressivement à ressortir de chez eux et reprennent petit à petit leurs activités. Voilà, vous avez le programme, bienvenue.
RFI à Paris, 89 FM.
La Russie, visée par de lourdes sanctions occidentales pour son assaut contre l'Ukraine, dit s'attendre à des progrès rapides dans le volet économique des pourparlers avec les États-Unis qui ont débuté ce matin à Riyad en Arabie Saoudite. Ces pourparlers réunissent donc des émissaires russes et américains. Les Européens, eux, semblent plus dispersés que jamais. La question d'une défense unie ou d'une force de maintien de la paix européenne divise profondément les capitales du vieux continent. On fait le point avec vous, Nicolas Rocca, bonjour.
Bonjour Grégoire.
On va commencer par les éléments positifs pour l'unité européenne ce matin. Qui est-ce qui réunit les dirigeants européens?
Ce qui les réunit, c'est le besoin d'agir et d'agir très vite à ce que le Premier ministre polonais Donald Tusk a qualifié de nouvelle phase dans la relation entre l'Europe et les États-Unis. Comprenez l'exclusion des dirigeants européens des discussions qui ont débuté en Arabie Saoudite ce mardi. Pour cela, ils semblent d'accord sur le besoin de parler rapidement d'une seule voix et de soutenir davantage l'Ukraine. Olaf Scholz, le chancelier allemand.
Il est désormais très clair pour nous que nous devons continuer à soutenir l'Ukraine et qu'elle doit et qu'elle peut compter sur nous pour le faire. Nous nous réjouissons que des pourparlers aient lieu sur le développement de la paix. Mais il doit être clair que cela ne signifie pas qu'il peut y avoir une paix dictée et que l'Ukraine doit accepter ce qui lui est présenté.
Il a indiqué être prêt à déroger aux sacro-saintes règles budgétaires pour augmenter le budget militaire des Européens. Le moment est crucial financièrement et militairement. L'Europe a contribué plus que n'importe qui d'autre et nous allons intensifier nos efforts, a promis Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne sur X ce matin, à l'issue d'une réunion avec Keith Kellogg, l'envoyé spécial du président Trump sur la guerre en Ukraine.
L'objectif, Nicolas, est d'offrir des garanties de sécurité robustes et fiables. C'est ce qu'a demandé par le président ukrainien Volodymyr.
Exactement, et cela doit permettre aux Européens de peser sur les négociations, du moins, c'est ce qu'a espéré ce matin sur France Info le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot.
Quand on dit que les Européens seront autour de la table, ça n'est pas une demande, c'est un constat. Pourquoi ? Parce que la réalité est implacable. Seuls les Ukrainiens pourront décider d'arrêter de combattre le moment venu. Et ils ne le feront que lorsqu'ils auront la certitude que la paix qui sera conclue et durable. Et comment en auront-ils la certitude ? Eh bien, uniquement s'ils ont des garanties qu'ils ne seront plus agressés. Qui apportera ces garanties ? Ce seront les Européens. Et donc, par la force des choses, les Européens, à un moment ou à un autre, seront autour de la table.
Et c'est sur ces garanties que les divisions sont les plus fortes.
Oui, on peut s'attendre à des désaccords sur les montants que chaque pays doit consacrer à cette hausse des dépenses militaires. Mais la grande question, Grégoire, c'est est-ce qu'il faut envoyer des troupes européennes pour maintenir la future paix en Ukraine ?
Le Royaume-Uni, lui, s'y est dit favorable à cette idée.
Oui, mais avec une condition. Écoutez bien le Premier ministre britannique Keir Starmer.
En ce qui concerne l'Ukraine, l'Europe doit jouer son rôle et je suis prêt à engager des forces britanniques sur le terrain aux côtés d'autres pays si un accord de paix durable est conclu. Mais il doit y avoir une garantie de sécurité américaine car c'est le seul moyen de dissuader efficacement la Russie d'attaquer à nouveau l'Ukraine.
Une garantie de sécurité américaine qui semble très hypothétique alors que Donald Trump rejette l'idée d'une participation des États-Unis à une éventuelle force de maintien de la paix.
Et qu'en est-il des autres grandes armées européennes, Nicolas ?
La France qui avait initialement ouvert la porte botte s'en touche ce matin. Emmanuel Macron évoque seulement des garanties fortes et crédibles. La plupart des dirigeants présents à Paris rejettent l'idée. C'est le cas de la Pologne qui a assuré qu'elle n'enverrait pas d'hommes. Le chancelier allemand, lui, juge l'idée hautement inappropriée et prématurée. L'inconnu est longtemps resté la position de Giorgia Meloni, la première ministre italienne, dont la Maserati est arrivée avec une cinquantaine de minutes de retard à l'Élysée. Une source gouvernementale indique à l'AFP ce mardi qu'elle qualifie l'envoi de troupes d'option la plus complexe et la moins efficace. En tout cas, pendant que les Européens cherchent encore à s'accorder, les pourparlers entre Russes et Américains, eux, ont déjà débuté.
C'était le direct de Nicolas Roca du service international de RFI.
RFI Midi. L'Europe à midi.
L'objectif de l'Union européenne de ne plus dépendre des combustibles fossiles russes d'ici à 2027. C'est un objectif affiché, mais il y a encore du travail. Les importations européennes de gaz naturel liquéfié, le GNL russe, ont augmenté de près de 20% l'année dernière. C'est une chronique signée Marie-Pierre Olfan.
C'est une situation presque paradoxale. La consommation européenne de gaz naturel liquéfié a chuté l'année dernière à son plus bas niveau depuis 2021. Et la part du GNL dans la demande globale de gaz des Européens a aussi baissé. Mais les 27 pays membres de l'UE ont continué à se fournir en Russie et ont même acheté presque 20% de GNL russe en plus. Ce qui veut dire, pour parler argent, que l'UE a dépensé 6,3 milliards d'euros en GNL russe l'année dernière. Ces volumes sont entrés essentiellement via les terminaux portuaires espagnols, belges et français. Près d'un tiers sont passés par le terminal de Dunkerque. C'est donc la France qui a importé l'année dernière le plus gros volume de gaz naturel liquéfié russe, un volume qui a bondi de 81% par rapport à 2023. Mais ce chiffre serait trompeur selon une étude menée par plusieurs organisations non gouvernementales. La France serait surtout une porte d'entrée au service de l'Allemagne, un pays qui a banni l'importation de GNL mais qui recevrait une partie des volumes importés par la France et la Belgique grâce à une interconnexion qui permet d'acheminer le gaz facilement. Derrière ces importations, une société allemande qui aurait acheté 58 cargaisons de GNL l'année dernière à un fournisseur russe bien identifié. Le transit via d'autres pays européens aurait permis à l'Allemagne de blanchir en quelque sorte ses achats russes. Plusieurs ONG parlent de mascarade qui alimente l'économie russe et indirectement la guerre. À ce stade, l'Union européenne n'a pris aucune sanction sur le gaz naturel ni sur le GNL russe, seulement des mesures contre le transbordement de gaz naturel liquéfié russe dans les ports européens. Une interdiction prise en juin dernier qui devrait entrer en vigueur au mois de mars prochain.
Marie-Pierre Olfan pour toutes ces précisions. On continue de parler économie européenne. Alors que la France et l'Allemagne s'enfoncent dans la crise, l'économie espagnole, elle, se porte au mieux. D'après les derniers chiffres de la Banque d'Espagne, la croissance du pays a été meilleure que prévu. Conséquence, la dette publique espagnole continue de refluer. Nathanaël Vitran, le contraste avec la France est saisissant.
Alors que les finances publiques françaises ne cessent de se dégrader, l'Espagne, elle, poursuit tranquillement son désendettement. Madrid n'avait pourtant pas été moins généreux que Paris pendant la pandémie et les mesures de soutien aux entreprises et aux particuliers avaient plombé les finances du pays. À son pic, en mars 2021, la dette publique espagnole s'élevait à plus de 124% du PIB. Mais 4 ans plus tard, elle a fondu à peine au-dessus de 100% de la production intérieure brute. Un résultat qui dépasse même les attentes du gouvernement de gauche. gauche au pouvoir. Mieux encore, ce redressement des finances publiques n'est pas dû à une brutale cure d'austérité, mais à la bonne santé et au dynamisme de l'économie espagnole. Porté notamment par un secteur du tourisme en pleine forme, la croissance a dépassé 3% en 2024, soit 4 fois et demi la moyenne de la zone euro. De quoi gonfler les recettes fiscales, un petit miracle, d'autant que faute de majorité claire et incapable de faire adopter son budget, le gouvernement espagnol se contente de gérer les affaires courantes. Une source d'espoir peut-être de ce côté des Pyrénées.
Nathanaël Vitran.
RFI Midi.
Un millier de policiers mobilisés et 147 membres de Cosa Nostra arrêtés. Bilan d'une opération menée la semaine dernière en Italie, un coup de filet XXL contre la criminalité organisée, comme le pays n'en avait pas connu depuis près de 40 ans. 4 clans ont été démantelés, un travail titanesque qui rappelle aux Italiens à quel point la mafia est encore profondément enracinée dans leur pays. La Calabraise Bruna Siviglia a toujours eu conscience de cet enracinement. Présidente de l'association culturelle BSC, elle est à l'origine d'une véritable révolution culturelle, avoir brisé le tabou de la Nangreta, la mafia calabraise, dans les écoles de sa région et désormais dans toute la péninsule. Notre correspondante Cécile Debarge a assisté à l'une de ces séances auprès des plus jeunes.
Pendant des mois, ces collégiens étudient le livre « Libre de choisir » du juge pour enfants Roberto Di Bella. Son visage vient d'apparaître sur la mosaïque qui s'affiche à l'écran. Costume gris, cravate rouge, petites lunettes fines, il est en direct de son bureau du tribunal pour enfants de Catane en Sicile.
Nous avons connu des meurtres terribles avec des voitures piégées, des scénarios dignes de terrain de guerre. À Reggio de Calabre, ce n'est pas rare d'entendre la nuit des explosions parce que des magasins menacés d'extorsion sont détruits par des bombes ou des cocktails Molotov.
Son témoignage est le moment fort du projet culturel Justice et Humanité Libre de Choisir. Il raconte comment 12 ans plus tôt, alors qu'il travaille encore à Reggio de Calabre, lui vient cette idée inédite. Proposer aux enfants de mafieux calabrais de quitter leur région pour recommencer leur vie ailleurs et ainsi échapper à leur destin criminel.
Dans les salles d'audience du tribunal pour mineurs de Reggio de Calabre, on en a vu défiler des jeunes comme vous. Et c'est d'ailleurs la même chose à Catane où je travaille désormais. Des jeunes intelligents qui avaient du potentiel, qui auraient pu avoir une vie bien différente, aspirer à une vie de famille, un travail honnête. Et au final, ils ont eu une triste fin. Soit ils ont fini en prison, soit ils ont été tués.
Le juge Di Bella égrène ses souvenirs. Un ado de 17 ans responsable de 6 meurtres, d'autres enrôlés pour surveiller des entrepreneurs pris en otage pendant plusieurs mois et cachés dans les montagnes de l'Aspromonte. Ces histoires sont souvent bien loin de la vie des collégiens du Piémont qui sont connectés ce jour-là. Elles sont malheureusement moins exotiques pour les élèves du groupe scolaire calabré que dirige la proviseure Isabella Marchio.
On plante chez nos jeunes, chez nos adolescents, des petites graines de l'égalité. Et c'est pour cela qu'on veut qu'ils soient toujours libres. Libres de choisir demain, quand ils seront des hommes, des femmes, des mamans, des papas, des citoyens, des citoyennes, pour contribuer positivement à construire une nouvelle société, une société du changement, y compris dans nos territoires difficiles. Comme ici, où, je dois le dire, malheureusement, nous avons eu en septembre une bien triste nouvelle, celle de 44 arrestations.
Ce jour-là, 44 personnes sont arrêtées entre Cerva et Petrona, deux toutes petites communes d'à peine 1000 et 2000 habitants dans la province de Catanzaro où se trouve le collège. Dans l'établissement, les élèves issus des rangs de familles mafieuses sont une minorité, mais tous sont exposés au climat pesant que fait peser la criminalité organisée sur ces territoires. Cécile Debarge, Reggio de Calabre, RFI.
RFI Midi. Un monde de tech.
Elon Musk présentait hier la nouvelle version de son IA conversationnelle, Grok 3, disponible depuis ce matin aux abonnés payants. Dominique Désonnet, bonjour.
Bonjour Grégoire.
Alors que ce soit dans l'élaboration du programme IA surpuissant ou dans la conception du site web Dodge qui est censé améliorer l'efficacité des services publics américains, les technologies mises en place par le patron de la plateforme X inquiètent les experts.
En cybersécurité, Dominique.
Oui, on commence tout de suite par l'infrastructure du site web du département de l'efficacité gouvernementale aux États-Unis, qui serait une véritable passoire numérique en raison de sa mauvaise conception, ont démontré des spécialistes en cybersécurité. Les dispositifs d'identification des personnes habilitées à se connecter et à modifier le site sont aussi fragiles qu'un mur de paille, accuse-t-il. Et pour prouver leur dire, ils ont défiguré le portail Internet avec un message éloquent. Ce site gouvernemental est une farce. Par ailleurs, les deux analystes alertent que des dizaines de jeunes informaticiens sans expérience du fonctionnement de l'État fédéral fouillent déjà les bases de données des ministères pour y trouver des sources d'économies potentielles. En réaction, du coup, des dizaines d'anciens fonctionnaires ont saisi la justice, accusant le département américain, dirigé par le milliardaire, de vouloir accéder aux données financières détaillées des contribuables et des entreprises.
La crainte d'une exploitation sans vergogne des données privées des citoyens américains se retrouve aussi dans le lancement de la version 3 de Grok, Dominique.
Effectivement, l'IA générative mise au point au sein de la filiale créée par Elon Musk qui se nomme xAI est aussi une source d'inquiétude. Le nouveau modèle, comme le précédent, est capable de générer du texte et toutes sortes d'images à partir d'une simple requête en langage courant. Mais il est plus libre que ses rivaux, plus drôle et surtout moins bridé, moins politiquement correct et moins woke, a martelé Elon Musk lors du lancement officiel de la nouvelle version hier, en qualifiant lui-même les capacités de raisonnement de Grok 3 d'effrayantes. Il annonce aussi que sa société devrait augmenter la puissance de son super calculateur dédié à l'IA, en doublant le nombre de ses puces graphiques fournies par le champion mondial du secteur Nvidia, le Colossus, c'est son nom, passe ainsi de 100 000 à 200 000 composants électroniques hautement spécialisés afin d'entraîner les nouveaux modèles d'intelligence artificielle.
Merci Dominique, et à demain pour un prochain Monde de Tech. On continue avec le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Il s'est accompagné d'un revirement de certains acteurs de la tech sur la question de la lutte contre les fausses informations. Facebook notamment a revu sa politique de modération des discours haineux et supprimé son service de fact-checking. Elon Musk, lui, ne cesse de s'en prendre. On l'évoquait déjà aux régulations européennes des réseaux sociaux. Alors dans ce contexte, comment lutter contre cette vague de désinformation d'un nouveau genre ? À Bruxelles, Elena Loison est allée à la rencontre de Disinfolab, une association de lutte contre la désinformation.
Dans les locaux de l'association au cœur de Bruxelles, une petite dizaine de salariés scrutent au quotidien toutes les nouvelles études et initiatives consacrées à la désinformation. Le directeur du EU Disinfolab, Alexandre Alaphilippe, a pour ambition de proposer une plateforme qui centralise les connaissances sur le sujet.
L'activité principale qu'on a, c'est de lire tout ce qui sort et d'essayer de comprendre tout ce qui sort et d'essayer de le digérer et d'écrire par exemple une newsletter toutes les deux semaines pour expliquer comment le secteur avance et quelles sont les différentes nouveautés à intégrer et à comprendre. Quand on a 200, 300 parties prenantes qui travaillent sur le même sujet, de dire, bon alors ça part dans tous les sens, qu'est-ce qu'il faut lire et sur quoi il faut se concentrer? Donc c'est principalement du travail de digestion et d'éclairage.
Né en 2017, dans la foulée des attentats, mais aussi de l'élection de Trump et du Brexit marqué par des ingérences étrangères, l'association se veut être une courroie de transmission qui favorise les liens entre plusieurs centaines de chercheurs, activistes et associations de toute la planète mobilisées contre la désinformation.
Très souvent, il y a une étude qui sort où il y a quelqu'un qui dit « Ah, je travaille sur tel sujet-là ». On dit « Mais tu sais que machin ou machine travaille aussi là-dessus. Parlez-vous, parce que c'est un peu bête si vous faites du travail en double pour faire exactement le même truc. Peut-être que vous avez des données à vous échanger et parlez-vous. » Et ça aide tout le monde, en fait. Donc, vraiment susciter les coopérations, susciter l'envie et susciter l'innovation pour que on puisse avoir de la recherche et aussi des solutions qui soient les plus innovantes possibles. On fait un webinar très prochainement sur comment on peut construire des alternatives aux algorithmes des plateformes.
Plusieurs fois par mois, le EU Disinfolab organise des webinaires pour diffuser les innovations et recherches récentes, comme cette étude consacrée à la lutte contre la diffusion en ligne de musique aux paroles racistes, sexistes, antisémites, générées via intelligence artificielle par des groupes d'extrême droite.
Good afternoon, everyone. Thank you for joining us. I will be moderating this new edition of the.
Ce jour-là, un séminaire consacré aux manières de mesurer l'impact des campagnes de désinformation est animé par un chercheur spécialisé.
Aujourd'hui, j'aimerais parler des enseignements que l'on peut tirer principalement de l'Ukraine dans le contexte de la guerre cognitive hybride entre la Russie et l'Ukraine.
Vyatoslav Nizdovski, conférencier du jour, conseille notamment le gouvernement ukrainien dans sa lutte contre l'influence russe. Sur son écran, il fait apparaître un chiffre, 1 milliard 900 millions.
Je vais commencer avec ce chiffre. D'après des estimations basses du site debunk.org, c'est le budget que la Russie dépense chaque année dans la propagande étrangère en influence étrangère.
Dans la salle virtuelle, une grosse centaine de participants, ils viennent des quatre coins de l'Europe, mais aussi d'Asie ou d'Amérique du Nord. Le EU Disinfo Lab a fait sa renommée internationale en travaillant à plusieurs enquêtes d'ampleur. En 2019, l'association a par exemple révélé l'existence d'un vaste réseau d'influence indien, composé notamment de centaines de sites internet de faux médias, créés pour relayer des événements organisés contre le Pakistan, propager un sentiment anti-pakistanais et appuyer les velléités de contrôle indien sur la région du Cachemire en influençant les décideurs européens. Mais le retour au pouvoir de Donald Trump et avec lui la volte-face des GAFAM sur la modération des fake news fait prendre une nouvelle ampleur aux missions de l'association.
Ça a été le point de départ d'une bascule complète des acteurs vers une position beaucoup plus confrontationnelle et une position de dire « je fais le minimum et quelque part venez me chercher ». Il y a un vrai changement de ton et de position. Donc il y a beaucoup de risques sur la capacité de pouvoir agir sur ces entreprises dans le futur.
La nouvelle administration américaine génère également des inquiétudes quant au financement de la lutte contre la désinformation. L'Agence des États-Unis pour le développement international, brutalement fermée il y a quelques jours, consacrait plusieurs centaines de millions d'euros par an à soutenir des médias indépendants, notamment en Ukraine, mais aussi à financer des associations et institutions de lutte contre la désinformation. Le secteur craint que la fin de ces financements entraîne une hausse de la désinformation et une baisse de la capacité à lutter contre.
Des précisions signées Hélène Loison.
RFI Midi.
RFI à Erevan, 102.4 FM.
C'est un massif montagneux algérien qui est réputé inviolable et qui, au fil des siècles, a résisté aux conquérants. Le Mont Ferratus, comme le nommaient durant l'Antiquité les Romains. Mont Ferratus, c'est aussi le nom de l'exposition du photographe Karim Kahl sur la Kabylie à la Fondation Henri Cartier-Bresson à Paris. Il a photographié ainsi les villages accrochés aux crêtes de ce massif, capté les paysages urbains, la végétation, les sols, dans des photos à la limite de l'abstraction et où la nuit domine. Un beau livre publié aux éditions Xavier Barral accompagne l'exposition du photographe, 13e lauréat cette année du prix Henri Cartier-Bresson. Il est l'invité de Muriel Mahalouf.
Karim Kahl, bonjour.
Bonjour.
Que représente la Kabylie pour vous ?
La Kabylie, elle incarne un certain nombre de récits que j'ai entendus depuis mon enfance, des récits liés à un espace de montagne très spécifique, à des populations qui ont des caractéristiques très singulières, à un territoire qui est un émetteur culturel très puissant, et puis évidemment des récits liés à la guerre d'indépendance, à la guerre d'Algérie, aussi très nombreux.
Vous avez photographié que la nuit. Pourquoi ce choix ?
Au départ, ce choix s'est imposé pour des questions de forme. J'élabore une photographie documentaire qui est en grande partie abstraite. Et la nuit, l'obscurité, c'était une solution pour travailler au flash, éclairer certains éléments de mes compositions et laisser le reste dans l'obscurité, donc dans une forme d'abstraction. La nuit, c'est aussi le temps des transgressions, c'est aussi l'espace de construction mythologique pour certains territoires, une forme d'infréquentabilité.
Alors quand on regarde vos photos, je commence par le début de l'exposition. On voit des images de la nuit noire avec des villages au lointain perchés ou un sommet éclairé. Qu'est-ce que vous avez voulu raconter par cela ?
L'idée générale, c'était de faire sentir l'élévation, le caractère perché de ces villages. Donc les villages de Haute-Kabylie sont construits sur les lignes de crête, en haut des collines, avec des abords souvent inaccessibles, constitués d'une garrigue assez dense ou de la forêt, et la nuit plongée dans l'obscurité.
Vous parliez de l'esprit de résistance de la Kabylie durant la colonisation. Est-ce que justement ces crêtes sont aussi un symbole de par la difficulté d'y accéder ?
Oui, absolument. C'est même au-delà d'un symbole, c'est une des raisons de l'impénétrabilité du territoire et de la difficulté qu'ont les entreprises coloniales à dominer ces espaces et ces populations. C'est que les villages sont fichés tout en haut de ces collines. Donc la forme de la représentation nous raconte aussi le rapport au monde qu'entretiennent les populations.
Alors il y a ces crêtes et ces villages perchés et il y a aussi les sols dans votre travail.
Oui, j'ai pour habitude de traverser des espaces qui m'intéressent, des territoires, une forme de structure urbaine, et puis de composer des images, paysages urbains, de nuit, et de le photographier au flash avec une vitesse d'obturation rapide. Et finalement, on n'a que les premiers plans qui apparaissent, qui vont être enregistrés, et toute la capacité finalement de projection de la perspective disparaît dans l'obscurité.
Est-ce que ce travail sur la Kabylie, Karim Khal, est aussi une sorte de travail identitaire ?
Pas vraiment. J'ai pas cherché à révéler ou à creuser un éventuel lien. Non, l'élément biographique qui est important, c'est que un certain nombre d'histoires, de récits, de légendes liées à ce territoire se transmettent de manière orale. Et ayant des liens familiaux avec le territoire, j'ai pu recevoir ces histoires depuis l'enfance. Et en fait, j'ai une proximité, une familiarité avec ce territoire que malheureusement d'autres personnes ne peuvent avoir s'ils n'ont pas de liens familiaux.
Merci.
Merci.
L'entretien de Muriel Mahalouf avec Karim Khal, 13e lauréat du prix Henri Cartier-Bresson. D'ici quelques instants, ce sera l'heure du Grand Journal International. Mais avant ça, on fait le point avec vous, Arthur Ponchelet, pour Afrique Midi au sommaire aujourd'hui.
Au sommaire d'Afrique Midi, on va d'abord revenir sur une victoire, Grégoire, celle de Queen Rima. La chanteuse guinéenne a remporté le prix Découverte RFI 2025. Vous l'avez peut-être entendu ce matin sur notre antenne. Si ce n'est pas le cas, séance de rattrapage dans une demi-heure. On est ensuite au Mali. L'armée et ses partenaires du groupe Wagner ont mené une série d'opérations dimanche et lundi dans la région de Kidal. Il y a des morts côté rebelles indépendantistes du FLA, mais aussi des civils. On fait le point avec David Baché. À partir de 12h30, temps universel, on est aussi en RDC pour évoquer la situation à Bukavu et puis en Côte d'Ivoire pour parler de harcèlement et de violence au travail avec notre invité, auteur d'une étude sur le sujet.
Merci à vous, Arthur. À tout à l'heure. Et je vous propose de finir avec un petit peu de musique, avec ce morceau à venir de Liminias. J'adore le monde, c'est en featuring avec Bertrand Belin, The Liminias, un duo français qui revient avec l'album Faded, prévu pour le 21 février 2025. Je vous propose de l'écouter.
J'adore le monde, les eaux sont blancs, le sang rouge, quand il y a du vent, ça bouge. Il y a les rivières, les films d'épouvante, pour les pièces de monnaie, il y a les fentes. J'adore le monde, car il y a le temps, l'espace, que les guerres éventuellement passent, que ça se tasse. J'adore le monde et tout ce qui palpite, gronde. J'adore le monde. J'adore le monde, la pluie qui vient du ciel, du ciel. Dans l'oubli, j'adore la nuit, car j'ai peur de la nuit.
J'adore le monde de Liminias. Ils seront en concert le 29 mars à Barcelone et le 10 avril à l'Olympia de Paris.
Quand la vie te sourit, y'a rien de plus sans cesse. Tu décolles, seul bémol. Quand la vie ne te rigole, tu te sens tout petit, petit. Tout petit, tout petit, tout petit, petit, petit. À côté de la plaque, exactement juste à côté, pas en dessous, pas n'importe où, à côté de la plaque. De quack en quack. D'échec en échec.
Tout à l'heure sur RFI, sur le Pont des Arts, Nathalie Amard.
392 après Jésus-Christ, l'Empire romain se disloque et avec lui disparaît le paganisme pour faire place à une nouvelle religion, le christianisme. Dans le dernier roman de Catherine Clément, les dieux vivent, aiment, meurent et se disputent. C'est un roman drôle et une leçon d'histoire.
Sur le Pont des Arts, avec Nathalie Amard. Du lundi au vendredi à 15h10 TU, sur RFI.